Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération, la 93.5. Nous sommes au mardi 22 octobre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la presse qui démarre. Nous sommes au deuxième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi d'ATV assure la mise en onde. Je suis au micro Pascal Lossou. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne de cette émission. Une salutation fraternelle à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons que vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Même vous nous suivez aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, aussi de l'Afrique et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Eric Pacoudjo. Josson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Bien commencé la semaine.
Ça va.
Dieu merci.
Ça va, oui.
D'accord. Jean-Baptiste Atissou, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Nous rendons grâce à Dieu.
C'est l'essentiel.
Naturellement.
Voilà, parce que c'est quand la grâce nous localise, ça nous fait toujours du bien.
Absolument.
D'accord.
On rend grâce au Créateur de nous avoir donné le souffle de vie pour que ce matin, nous soyons toujours avec vos auditeurs qui sont câblés à travers le monde entier.
Voilà, quand vous dites que le souffle de vie nous a été donné pour que nous soyons avec nos auditeurs, je le disais tout de suite, c'est des gens qui sont très nombreux et ça nous intéresse même d'ailleurs de discuter aussi avec eux ou du moins qu'ils participent aussi à cette émission. Et c'est à partir de midi que nous leur donnons la parole déjà sur nos deux numéros, le 90 86 35 35 91 36 63 75. Jean-Baptiste, je vous rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde. Écho du Monde est dans le kiosque ce matin, c'est ça?
Absolument.
D'accord. Et nous avons parlé même d'ailleurs des titres ou des articles évoqués à la une alors de votre journal et ce matin. Et aussi, également un autre site, c'est le site d'information.
Corps diplomatique news.tg.
D'accord. Nous sommes au mardi. Mardi, ça parle plus littérature et aussi culture et littérature particulièrement. Et vous le savez très bien, celui qui est habilité et qui nous donne des informations littéraires dans cette émission chaque mardi, c'est Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je n'ose pas vous demander comment vous allez.
Non, c'est pas cela.
Togolaisement, il va bien.
Mais sinon, ça va.
Oui, ça peut aller.
C'est l'essentiel. Vous êtes critique et conseiller littéraire, aussi écrivain, et chroniqueur, bien sûr, dans cette émission. Et nous allons poursuivre alors le déblayage du champ littéraire togolais, parce que nous avons commencé ce travail depuis un temps. La dernière fois, vous nous avez parlé alors des écrivains qui sont venus seulement récemment sur le champ littéraire togolais, malgré leur grande culture littéraire. Et vous nous avez parlé des plus représentatifs. Aujourd'hui, vous allez nous parler alors des jeunes écrivains, relativement en âge, surtout les plus représentatifs. Alors, Claude, une question ou une première question. Et sur quels critères vous vous fondez pour dire que tel est représentatif et tel autre alors l'est moins?
La littérature, c'est une fiction, mais il y a des critères objectifs. Hein? J'ai déjà cité quelques-uns ici. Il y a je vous ai parlé de l'expressivité, il faut être expressif, et l'originalité et la profondeur. C'est les trois, hein? Ça c'est objectif. J'ai remarqué, pour parler de ceux qui le sont moins, trois péchés chez beaucoup d'écrivains togolais. Ils n'aiment pas souvent qu'on le dise. Et lorsque vous le dites, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est ça la réalité. Les gens ignorent ça après. Je ne veux pas les frustrer, mais ce qui se dit entre ceux qui connaissent bien la littérature. Il y a chez les auteurs, les jeunes auteurs togolais, il y a souvent ce qu'on appelle les clichés. Les clichés qu'il ne faut pas à la littérature. Par exemple, c'est des expressions déjà trop utilisées. Par exemple, il ne va pas de sénateur. Désigner son bien-aimé ou sa bien-aimée par fleur, c'est un petit homme à fleur.
Est-ce que c'est des expressions passe-partout?
Voilà, c'est des expressions passe-partout. Ça, c'est ce qu'on appelle des clichés. Lorsque vous écrivez et vous ne renouvelez pas la langue, vous écrivez des expressions passe-partout, ça, c'est pas de la littérature.
Il n'y a pas de nouveau.
Il n'y a pas de nouveau. Ça, c'est pas de valeur ajoutée. Ça, c'est le premier péché. Deuxième péché, c'est les lieux communs. Hein? C'est-à-dire, on traite les thèmes comme si cela a été toujours traité par les devanciers. Hein? Les thèmes les mêmes, on ne voit pas. Mais surtout mieux, pour ne pas frustrer, je préfère donner l'exemple de la musique, que tu vous laisses par exemple. Vous voyez, il y a des gens qui font du rythme zaïrois. Mais moi, si je veux écouter le zaïrois, je vais au combat. Rien à faire.
Vous n'avez même pas besoin alors d'aller jusqu'au Congo. Il suffit simplement alors d'avoir. Il y a des artistes zaïrois qui.
C'est ce que je dis. Voilà. Le Congo, j'achète un disque de zaïrois. C'est ce que je veux. Voilà. Donc, c'est ce que vous traitez les choses comme les gens ont déjà fait. C'est du déjà vu. Tu le fais. Alors, on appelle ça des lieux communs. Hein, des lieux communs. Bon, on peut l'approfondir. Et surtout. Ça, je l'ai prouvé à plus d'un qui veut approfondir la question. Il y a ce qu'on appelle... Il y a une différence nette entre la réalité que nous vivons et la réalité artistique. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose.
Alors, c'est quoi la différence, Claude?
Bon, ce serait trop long. C'est tout un coup. Mais je vais vous dire que... comme je suis conseiller littéraire, après avoir lu des manuscrits, je dis parfois aux gens... voilà, ça ne passe pas. Il dit, mais moi j'ai vu, ça s'est passé comme ça, j'ai vu tel quel. Il dit, mais en littérature, ça ne passe pas. Comme le dit Boileau, le vrai n'est pas vraisemblable. C'est tout un sujet, toute une dissertation, mais on ne peut pas l'aborder en 10 ou 15 minutes. Voilà à peu près les trois péchés que j'ai relevés chez les jeunes plumes. Hein. Mais vous allez remarquer quand même qu'ils ne sont pas médiocres. Hein. Il y a quelque chose. Mais ça doit bouger, ça doit s'affirmer par le travail. Merci.
Oui, mais Claude, ce n'est pas les plus représentatifs qu'on a mis au programme scolaire?
Je ne crois pas toujours. Mais oui et non. Au-delà de ce qu'on peut reprocher à cette introduction des œuvres togolaises au programme, qui n'est pas une bonne mauvaise chose, au-delà du copinage, du mercantilisme et de la politisation des choix des auteurs, très visible, que tout le monde nous mieux, au-delà de tout ça, il existe d'autres critères objectifs, qui sont des critères pédagogiques. Il y a d'abord, par exemple, l'accès des œuvres au programme. On ne va pas mettre moi en sixième, non. Même moi, je dis, si on doit me trouver une place quelque part, mettez-moi en terminale. Les élèves auront le temps de commencer la philosophie. Hein? Même pas. Bon, donc, sixième, cinquième. Et il y a d'abord, ils vont voir si le thème d'abord peut nourrir les élèves à ce niveau-là. Ensuite, si ce n'est pas ceux qui écrivent le mauvais français, hein? Ça peut être une mineure, mais c'est des gens qui écrivent du bon français. Même s'il y a du cliché, tout ça, c'est du bon français. Les enfants peuvent apprendre à écrire du bon français. Mais ça veut dire qu'il y a des critères pédagogiques objectifs. Mais ça fait leur affaire. C'est des critères suffisants, des conditions suffisantes pour les objectifs pédagogiques, mais qui ne sont pas des critères suffisants pour la littérature. C'est pourquoi je dis souvent, pour faire les deux, il aurait fallu commencer par les manuels scolaires. Là, on aura fait tout ça.
Enfin. D'accord. Alors, Claude, et quels sont les plus représentatifs selon vos critères? Et quel est le profil littéraire de chacun?
Et je peux vous les citer. Bon, nous parlons plutôt des œuvres représentatives et non des écrivains représentatifs. Parce que vous pouvez trouver un écrivain qui n'a pas bien écrit ici, mais qui va écrire merveilleusement là. Hein, je peux vous les citer. Vous prenez Madame Tassim Koutoukalo, hein, et qui a écrit Les Enfants de Midi, une belle plume, hein, et elle traite des devoirs conjugaux et familiaux avec une écriture savoureuse, hein, qui est près de ce qu'on appelle l'oralitude, ça veut dire essayer de, d'injecter notre oralité dans la littérature. Vous avez Madame Anaté, hein, tout le monde la connaît, avec ses recueils de poèmes. Elle, souvent, c'est des problèmes de communication entre les sexes, entre les hommes, entre les pays en général. Hein. Et c'est ça son problème. Une écriture classique. Elle fait des jeux aussi de narration. Pas des, des images simples, mais très, très réussies. Hein. On peut la compter. Et il y a Douty Marlène. Hein. C'est, il promet beaucoup hein, parmi les jeunes.
Un dramaturge.
Dramaturge. Hein, des jeunes générations. Il traite des. C'est le problème dans, dans son œuvre, l'Apocalypse. Apocalypse, ah, c'est Apocalypse. Et c'est le problème des jeunes générations révoltées, mais sacrifiées, parce que sacrifiées à la misère matérielle et à la déchéance morale à cause de l'irresponsabilité des dirigeants. Mais, vous voyez, et ces œuvres-là, et avec une écriture palpitante et gorgée de poésie. C'est palpitant. Mais comme il égratigne les pouvoirs, je ne vois pas. Je ne sais pas si on peut le mettre au pouvoir. Mais c'est de la vraie littérature. La vraie. Hein, la vraie.
Ah, mais si c'est la vraie, je pense quand même que sur cette base, on pourra quand même le classer au programme.
Bon, nous, c'est un pays où tout, on est, toutes les choses sont très politisées. Même les plumes des oiseaux sont politisées. Hein. Matt Faré, et. Il y a écrit Rival. Rival, c'est du jeu de narration très intéressant. J'ai reçu la dernière fois une œuvre de Mikabo Nyakani, Femme Rebelle. Elle parle de. Il parle de comment on appelle et de la dépigmentation. Hein, avec un style très excessif. Hein, il a une écriture. Hein, et Anas Atakura, avec son lyrisme contenu doux. Dans une œuvre qui est un programme qu'on appelle Trace de parcours. Hein, vous avez de Salier Renaud avec la puissance de ses images. Et c'est un poète. Hein.
Tout à fait.
Vous avez Viens Koudossou qui s'est tourné le dos au cliché. Hein, et, etc., etc. Mais il y a d'autres. Et Kofi Bokor, Kantebe, Difa Galé, Patron Erekou, que je n'ai pas encore lu en profondeur. Mais que je soupçonne, je vois des soupçons de belles écritures chez eux. Mais je ne les ai pas encore lus en profondeur. Mais je vois quelque chose, des étincelles. Hein. Et il y a enfin Kofi Assem, et que je connais particulièrement plutôt en bande dessinée. C'est au Togo, c'est le maître de la bande dessinée. Hein, bande dessinée. Mais il a aussi un nouveau programme en cinquième. Je ne l'ai pas lu. Pour me prononcer là-dessus. Voilà à peu près. Je peux oublier, hein, certains. Je peux oublier. Mais ces œuvres que je viens de citer, franchement, vous les lisez, c'est sûr que c'est de la littérature chez ces jeunes-là. Ils ont une plume merveilleuse. Voilà.
Il y a de la matière.
Voilà. Et lorsque je parle de jeunes en âge, c'est relatif. Hein.
Tout à fait.
Bon, en athée, c'est pas.
Oui, mais en âge.
C'est pas que 18 ans.
Tout à fait.
Hein. Bon, Tassim, c'est pas 18 ans.
Effectivement.
Mais relativement.
Nikabou.
Nikabou voilà, aussi, oui. Voilà, c'est relatif.
Une question pour Claude.
Claude, je suis en train de te lire.
Oui.
L'amour et le sang.
Oui.
En te lisant, dès le début, je constate que tu es en train de mettre en exergue ce que les jeunes d'aujourd'hui, hein, la jeune génération, est en train de dénoncer dans les relations nord-sud.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais quand je t'écoute,
oui,
par rapport à tes critères de sélection, je me rends compte que ce sont des critères que l'on retrouve chez l'Occident. Je n'arrive pas à comprendre.
Non, vous parlez de critères de littérature.
De littérature.
Ça, c'est mondial. C'est universel, ce n'est pas en Occident. C'est en russe. Il y a des grands écrivains russes, Gogol, Dostoïevski, tout ça. C'est les mêmes critères. Ça n'y a rien à faire.
C'est universel.
Vous ne pouvez pas y échapper. En Inde, en Chine, c'est la même chose. Ce que les Togolais, les Togo, les Zori, là, ils écrivent une petite histoire. Ma fleur, hein, je viens te voir, qu'est-ce que. Mon soleil, tout ça. Et puis.
C'est ce que vous appelez les Togolais.
Ils décrètent qu'ils sont des écrivains. C'est des critères universels. Même en Chine. Même en Chine. La dernière fois, celle qui a eu le prix Nobel, là, vous avez vu ce que vous avez vu le comité a dit.
Oui.
C'est une prose poétique.
Oui.
Mais c'est une prose poétique. Mais il s'agit donc d'une coréenne. C'est un critère universel. Tu sais, moi, je n'ai pas.
Justement, c'est là où je voudrais en venir.
Voilà.
Est-ce que ce n'est pas, par exemple, à la conquête des prix internationaux?
Non, il y a des critères universels. Par exemple, si vous prenez les œuvres que les Africains publient en Europe, les Samichak, c'est pas de la blague. De la littérature, il y a de la vraie littérature, on ne bloque pas. Et il y a comment on appelle l'autre que j'ai cité, Mambankou, tout ça.
Oui.
Au-delà de la culture, il y a l'ancrage culturel. L'ancrage culturel, c'est l'Afrique. Il revient de l'Afrique. Et Kossi et Fui va au-delà. Il n'aime même pas l'appellation écrivain africain. Hein? Lui, écrivain, c'est écrivain. Parce que c'est la forme qu'il faut privilégier. Et c'est lorsqu'on c'est la forme qu'on privilégie, mais ça, c'est universel. Il n'y a rien à faire. Hein? Même en hébreu, si vous voulez faire la poésie en hébreu aujourd'hui, c'est la forme qu'on va privilégier. On ne fera pas autre chose.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Claude, d'être passé cette émission.
Je voudrais dire.
Oui, mais on reviendra.
Ton nouvel essai, essai épistolaire.
Effectivement.
Est-ce que
on va revenir.
Tu mets l'amour et le sang. Je lis plutôt l'amour dans le sang.
Oui, ça dépend. Hein. Bon, je crois qu'on aura le temps.
Mais on aura le temps, justement, de décrypter, de revenir sur l'amour et le sang. Effectivement, je te l'ai promis.
On va résoudre ces questions.
Justement, l'amour et le sang, nous allons revenir.
Je vous laisse faire l'essentiel.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour la chronique littéraire. Ça nous permet même d'ailleurs d'avoir une vue d'ensemble alors sur notre littérature au Togo. Alors, chers confrères, nous allons poursuivre alors notre débat ici au Club de la Presse, bien sûr. Et Eric, le premier sujet qui nous intéresse, bien sûr, c'est vous qui nous donnez ce sujet. Et nous sommes rejoints par Isidore Akola. Isidore, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrères sur le plateau. Bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Togolaisement bien.
Alors, Eric, je disais que le premier sujet, c'est vous qui nous le donniez. Et vous écriviez à la une de votre journal ce matin, « Reine des sciences et des technologies 2024 et de trois pour Abira Bonfo et sa fondation Assal. Comment Marie-Lucie fait reine ?» Alors, par rapport même d'ailleurs à ce concours, on a l'apothéose, c'était le samedi dernier, et on a maintenant l'essentiel.
Oui, Pascal, je dirais que la fondation Assal, créée par l'honorable Abira Bonfo, est en train d'émerveiller par rapport à cette organisation, à cet événement, qu'est la reine des sciences et des technologies. Je voudrais dire, quand vous prenez la forme, d'abord, c'est une idée pour encourager les jeunes filles à s'intéresser à tout ce qui est science. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de science et technologie. L'idée, c'est de permettre à ces jeunes filles qui, parfois, par manque de moyens, n'arrivent plus à poursuivre leur cursus scolaire et qui abandonnent carrément l'école pour d'autres fins, parce qu'il faut joindre les deux bouts. Et avec cette organisation, on arrive à prendre tout le monde. Je veux vous dire que pour cette troisième édition, il y a eu au total 103 candidatures à travers tout le pays, c'est-à-dire que c'est ouvert à toutes les jeunes filles qui ont déjà à partir de 15 de moyenne au BEPC, brevet d'études du premier cycle, et ont une moyenne également de plus de 15 dans les matières scientifiques. Et donc, elles postulent, et là, on a eu au total 103 candidatures à travers tout le pays. Après étude des dossiers, on a retenu 97 candidatures. Et parmi ces 97 candidatures, avec les critères qui sont siens, la Fondation a pris 3 filles par région. On a eu au total donc 15 lauréates à travers tout le pays. Et quand elles arrivent à la Fondation, il y a une date pour être là. Elles composent maintenant, c'est dans le fond de ce concours, elles composent en mathématiques, en physique, chimie et en sciences, en SVT, sciences de vie et de la terre. Et donc, après cela, ça c'est la partie écrite, il y a une partie orale qui se fait en anglais et en français. Et donc, après tout ça, on fait la moyenne et celle qui a la meilleure note, c'est elle qui devient la reine. Et donc, les deux suivantes sont les duchesses. Donc, la Fondation prime ces filles-là pour leur permettre de continuer leur cursus scolaire. Dites-vous, il y a à la première édition, mais des filles, certaines filles qui étaient déjà prêtes à abandonner l'école et qui, par chance, ont été lauréates, même si elles n'ont pas été reines ou duchesses, mais il y a quand même un accompagnement de la Fondation à hauteur de 500 000 au moins par lauréate. Et donc, la reine, elle a une bagatelle de 5 millions. Les deux duchesses, la première, 3 millions et la deuxième, 2 millions. Et donc, à la fin des sélections et du concours maintenant, on fait une apothéose. Et c'est ce que nous avons vécu le samedi dernier à la salle Fazao de l'hôtel du 2 février. Et pour cette troisième édition, la Fondation a profité pour continuer ses œuvres en accompagnant une autre organisation qui s'appelle la Reine de l'Art avec un chèque de 5 millions de francs CFA.
D'accord.
Également, il y a une organisation de femmes qui s'appelle Fraternité, qui a également reçu un chèque de 5 millions de francs. Et à la fin, il y a également une autre association qui s'occupe des enfants, peut-être dont les parents, des orphelins, dont les parents ont été atteints du VIH-SIDA,
d'accord,
qui a reçu un chèque de 1 500 000.
Merci beaucoup, Eric. Alors, Jean-Baptiste, quand on suit Eric avec ce concours, on comprend tout simplement que c'est une initiative pour faire la promotion même d'ailleurs de l'éducation, surtout chez la jeune fille.
Oui, justement, c'est pour faire la promotion de la jeune fille. Et bon, peut-être je profite de l'occasion pour dire que la Fondation Assal, dont il est question, est vraiment, comment l'appelle-t-on, a de l'embonpoint, parce que quand on voit beaucoup de millions qui ont été distribués, ça prouve que la Fondation a beaucoup de moyens, et on suppose. Donc, bon, c'est une initiative quand même qu'il faut vraiment saluer, parce que vous savez, depuis un certain temps, on a vu que les pouvoirs publics même ont senti le besoin de promouvoir la gente féminine à travers ce qu'ils ont commencé il y a 4-5 ans avec les lycées scientifiques que le gouvernement a créé, notamment celui de Tocoin et celui de Cara. C'est deux lycées scientifiques qui acceptent des élèves qui ont au moins 14 de moyenne en sciences physiques et en mathématiques à partir de la classe de 4e. Et donc, l'initiative de la Fondation Assal vient donc en appui à cette initiative du gouvernement, et on ne peut que féliciter cela et dire que peut-être pour qu'elle se dote plus de moyens pour élargir son assiette, c'est-à-dire venir en aide à d'autres filles, parce que ce ne sont pas seulement celles qui sont des scientifiques qui ont des besoins, il y a d'autres filles d'autres contrées qui vraiment abandonnent précocement parce que justement par manque de moyens. Donc il faudrait que son assiette, c'est-à-dire la couverture, soit plus élargie pour que d'autres filles en bénéficient.
Ou même demander à d'autres partenaires aussi d'organiser quelque
pas,
chose.
Justement, et dans ce sens, bon, peut-être d'une fondation à une autre, on peut parler, faire le parallèle entre ce que Adebayo aussi est en train de faire dans le cadre de son jubilé, parce que il y a à peine une semaine ou 10 jours de cela, la Fondation Chéri Adebayo aussi a organisé une initiative pareille à l'endroit de 4 établissements de notre pays, où elle a, cette fondation-ci a rassemblé, je crois, près de 100 jeunes filles collégiennes et lycéennes au CFMI, Centre de formation aux métiers industriels, qui se trouve dans la zone portuaire. Et où, avec l'appui de l'Agence française de développement, ils ont quand même fait des conférences à l'endroit de ces jeunes filles qui ont quand même échangé avec leurs sœurs ou mères qui ont essayé dans les métiers des sciences et de la technologie et dans plusieurs domaines où il y a eu beaucoup de partage avec ces jeunes filles-là qui sont dans ces filières scientifiques et technologiques, et ils ont quand même échangé avec leurs sœurs, notamment celles qui travaillent déjà au niveau du CFMI et aussi dans d'autres secteurs, jusqu'à ce que ce qui m'a le plus émerveillé lors de cette rencontre là-bas, c'est notre compatriote Jessica Kouévi qui est la première pilote du Togo. Donc, elle était là à cette rencontre et elle a partagé son expérience, ce qu'elle a enduré jusqu'à être là où elle est aujourd'hui avec nos jeunes sœurs élèves qui étaient de cette rencontre. Donc, ces initiatives sont donc à saluer.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Avant de donner la parole à Isidore Akolo, nous allons observer une injonction au niveau de la technique. On revient.
93.5.
Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous discutions alors de ce concours Rennes des sciences et des technologies 2024 hein, qui a eu lieu déjà, ou l'apothéose, dont l'apothéose a eu lieu le samedi dernier. Et Isidore, c'est vrai, Eric a parlé même d'ailleurs de cet événement. Il y a également Jean-Baptiste Attissot qui a fait son analyse alors sur le sujet. Alors, quand on prend aujourd'hui cet événement, c'est un événement apprécié. Mais est-ce que, au-delà de cela, est-ce que l'État ne doit pas prendre en compte même d'ailleurs tout, ou ne doit pas prendre en charge tout pour pérenniser cette initiative,
hein? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une initiative personnelle.
Privée.
Et privée. Pas du tout. En principe, l'État doit donner des bourses à ses enfants. Mais s'il y a une organisation ou une association qui le fait, on ne peut que l'accompagner. Moi, j'ai assisté à toutes les trois, à toutes les trois éditions. Mais c'est pour célébrer l'excellence et encourager les filles à aller de l'avant. C'est un pâté Bakou le dit dans son ouvrage, une fille à l'école, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, c'est démontré. C'est démontré que les filles donnent les pions aux garçons. Et souvent, quand tu étais une élève, c'est la littérature. Souvent, elle se retrouve là-bas parce qu'on dit que mathématiques, là, c'est trop compliqué. Physique, non, 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 là, je ne sais pas. Surtout chimie, là. Mais aujourd'hui, c'est une émulation qu'on donne à nos filles. C'est en cela que je salue l'initiative. Et je souhaitais que ça se pérennise. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne à qui veut. J'ai suivi le développement d'Eric. Quand vous l'écoutez, c'est comme si les 5 millions, les 3 millions, les 2 millions hein, sont de l'argent frais qu'on donne aux enfants. Non, c'est logé dans un compte pour leur cursus scolaire.
C'est ce que j'ai bien dit.
Bon, peut-être, l'accent n'était pas très mis là-dessus. Que les gens ne pensent pas que c'est de l'argent liquide qu'on a donné aux enfants. Non, c'est pour le canaliser. Mais la fois dernière, quand j'ai suivi la reine de 2023, mais elle a grandi en maturité. Quand elle est venue sur le podium, mais elle a improvisé sans papier. J'étais émerveillé. C'est des choses à encourager. Bon. Où est-ce qu'elle trouve de l'argent pour le faire ou pas?
Elle s'appelle Akpagana Akosiwa.
Ah oui.
La reine 2023.
Mais elle m'a émerveillé.
Elle a émerveillé tout le monde.
Parce qu'en 2023, elle n'était pas... Ça veut dire qu'il y a un suivi derrière ces lauréates. Et moi, que ça puisse continuer. Et j'encourage l'initiateur ou la présidente de Assal, Abira Bonfo, pour que elle trouve, c'est pas où elle trouve les moyens, parce que ce truc-là, je me dis, où est-ce qu'elle trouve les moyens? Au début, je pensais que quand elle était à l'Assemblée, qu'est-ce que... Mais les gens ont juré que, bon, quand elle n'est plus à l'Assemblée, là, ce projet-là est à l'eau. Wow. Pourtant, elle a relevé le défi.
D'accord.
Elle a relevé le défi. Et en cela, je l'encourage à aller de l'avant. Et surtout, que ça puisse faire tâche d'huile et l'émulation des jeunes filles à l'école.
D'accord. Oui, mais Eric, j'ai posé la question concernant l'État qui doit prendre même aussi cela en main, parce que sous d'autres cieux, ça se fait. On se souvient même d'ailleurs également de ces prix d'excellence organisés par le président ivoirien Alassane et également Ouattara, bien sûr, qui arrive à primer les excellents dans pratiquement beaucoup de domaines à la fin justement de la année. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin aussi au Togo?
Bien sûr, ce que Isidore est en train de dire, c'est tout à fait logique. Que l'État donne des bourses. Quand l'État a des moyens, l'État peut primer. Mais il faut, tu sais, la réalité aujourd'hui, c'est que l'État compte beaucoup plus sur le secteur privé. L'État compte sur les initiatives privées de ce genre-là pour pouvoir faire avancer les choses. Et il faut le reconnaître, la Fondation Assal s'appuie beaucoup plus sur ses donateurs. Et il y a des gens, il y a des sociétés qui appuient la Fondation Assal dans cette initiative. Il est vrai que c'est comme nous, hein, nous ne créons pas nos organes de presse en attendant des mécènes. Mais on se bat nous-mêmes, on travaille et après, on demande, on cherche des appuis pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Mais c'est la même chose pour la Fondation Assal, puisque quand, au cours de la soirée, quand vous regardez bien, il y a des partenaires qui sont cités et qui forcément appuient la Fondation d'une manière ou d'une autre. Tel n'a pas forcément l'argent, mais a un appui technique à apporter. Tel a un appui logistique à apporter, etc. Tout ça concourt à ce que cette organisation soit pérenne. Alors, maintenant, par rapport à l'État, je dis, lorsque vous créez de tels concours, il y aura de l'émulation partout. L'État même a été représenté à cette soirée apothéose. On a vu un membre du gouvernement, un membre de l'Assemblée nationale, des députés et tout ça, des officiers supérieurs. On a vu tout ce monde-là qui est arrivé forcément pour appuyer ce qui se fait, pour dire « nous soutenons l'initiative ». Maintenant, au niveau de l'État, on peut encore ouvrir d'autres champs pour permettre cette émulation que nous recherchons, cette excellence. Le ministre Tchakpe et Isaac, il a dit que lorsque le gouvernement a été formé, le chef de l'État leur a intimé l'ordre que l'école togolaise devienne une école d'excellence. Et déjà, quand il y a de ces organisations-là, pour appuyer cette excellence-là, eux, ils sont là pour accompagner.
Alors, Jean-Baptiste, est-ce qu'aujourd'hui, ces concours ou cette initiative ne pose pas la question de savoir, de l'avenir des sciences et de la technologie, surtout dans notre pays? Parce qu'il faut avoir aussi une vision propre pour ces matières qui constituent en quelque sorte des matières de l'avenir, matières du présent et aussi de l'avenir.
Oui, avoir une vision, naturellement. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ont compris cela, qu'il faut mettre les moyens dans les matières scientifiques, puisqu'on a l'habitude de le dire que les sciences gouvernent le monde. Alors, ceci étant, les moyens, on en a besoin. Et aujourd'hui, le problème ne doit pas être dévoyé parce que les moyens, le Togo en a besoin. Beaucoup de pays africains en ont besoin pour pouvoir développer la science. Mais ce qu'on remarque, malheureusement, c'est que les États, même les États, les entités étatiques, ne mettent pas vraiment beaucoup de moyens dans les sciences. La preuve, quand nous voyons dans nos universités publiques, il y a beaucoup d'enseignants qui se disent enseignants-chercheurs, mais qui, ma foi, manquent de moyens pour leurs recherches. Et il y a un président français dont je vais taire le nom, qui disait qu'il y a que des chercheurs qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Donc, au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, il y a bel et bien des professeurs qui veulent bien chercher, qui veulent s'investir dans la recherche pour pouvoir trouver et pour pouvoir innover. Surtout, la finalité, c'est des innovations. Innover pour faire développer le pays. Mais curieusement, il manque de moyens. Parce que, malheureusement, il n'y a pas réellement une bonne volonté politique qui mettent vraiment de moyens adéquats dans la recherche scientifique pour que nos pays puissent innover et développer des applications, développer des technologies pour pouvoir éclore nos pays, nos économies en matière de développement. C'est ça le couac qu'il faut relever. Mais si nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des initiatives privées qui quand même appuient les filles, appuient les scientifiques au niveau scolaire, il faudrait que au niveau supérieur, il y ait également ce même accompagnement pour que réellement nos scientifiques d'aujourd'hui et nos futurs scientifiques puissent vraiment développer des moyens pour que nous puissions innover pour notre économie.
Est-ce que vous avez l'impression que nous accordons une place de choix aux sciences et à la technologie dans notre pays?
Pas du tout, pas du tout. Je me souviens, dans les années 80, il y avait ces lycées scientifiques qui ont rapidement disparu. on a aussi créé des séries B entre, qui ont disparu. Bon, vivement que ça puisse continuer si le gouvernement voit que bon, il va mettre plus d'argent. Et le constat, parmi toutes les lauréates, elles proviennent des lycées scientifiques. En 86 ou 87, au moins chaque lycée a un laboratoire d'expérience sur l'expérience chimique. Quand on dit liqueur de Fehling sur amidon et coloration bleue,
rouge brique.
Donc, bon, il y a toutes ces choses-là que nous avons expérimentées au lycée de Tocoin, tout comme au lycée de Février, à l'époque, il y a un laboratoire. Aujourd'hui, est-ce que ça existe? Je n'en sais rien. Mais je ne le pense pas. Et les moyens sont plus mis sur les lycées scientifiques. Que dit-on des autres établissements publics et privés? Je me souviens qu'à l'époque, le collège protestant rivalisait d'ailleurs, tout comme le collège Saint-Joseph, avait aussi un laboratoire d'expérimentation. Mais le problème qui se pose actuellement, il faudrait que l'État mette des moyens pour que tout le monde soit au même niveau. Il ne faut pas qu'on mette plus de moyens sur les lycées scientifiques. Il faut aussi les autres établissements publics. Pourquoi pas les établissements? C'est ça qui va pousser les établissements privés à rivaliser d'ailleurs avec les établissements publics. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il est, il fut professeur de mathématiques.
Je pense qu'il faut relativiser. De toute façon, lorsqu'on crée une université scientifique, un lycée scientifique, l'idée derrière, c'est d'amener l'excellence dans le domaine scientifique, et donc si on a des lycées et d'enseignement général, c'est que tout le monde peut y aller. Mais ici, l'accent est mis sur les matières scientifiques. Et donc, un programme véritablement différent de ce qui se fait dans les lycées.
Eric, je ne suis pas d'accord avec toi. Au moins, il faut le basique. Pour que ceux qui sont
Isidore,
tu parlais des laboratoires. Mais j'avoue que moi, je connais encore des lycées aujourd'hui qui ont des laboratoires.
Il faut me les citer.
Quand tu parles de...
Avec les principatifs.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, le tout dépend de ceux qui dirigent ou ceux qui gèrent ces lycées-là. Tu parlais de collège Saint-Joseph, collège protestant et tout ça. Dans le temps, le lycée de Tocoin, dans tous ces lycées-là, il y avait quand même des laboratoires où, après le cours théorique, vous allez au laboratoire pour regarder, expérimenter effectivement ce qui se passe. Je ne crois pas que ce soit un délaissement total par rapport à l'institution qu'est l'école. Je ne crois pas que les gens ont juste envie de créer des écoles et ne pas aller dans le fond. Lorsque dans le programme on est obligé d'aller au laboratoire, c'est qu'il faut mettre en place les laboratoires. Et là où je peux rejoindre mes deux collègues, c'est que est-ce que aujourd'hui, dans le programme, dans les lycées, est-ce qu'on insiste sur le passage au laboratoire, sur l'expérimentation de ce que les gens apprennent en classe. Déjà, au cours primaire, aujourd'hui, ce que je vois, les enfants sortent pour aller sur le terrain, regarder ce qui se passe. Quand vous avez, je ne sais pas, la géographie, l'histoire ou quelque chose comme ça, les sciences, on vous sort de la classe, vous allez sur le terrain expérimenter, regarder un peu et tout ça. Donc, ça veut dire que pour moi, on est obligé de mettre en place des laboratoires.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Oui, mais c'est ça le sujet important. Je suis d'accord. Mais on va quitter le sujet. On s'intéresse à ce sujet, même d'ailleurs, de l'effondrement de cet immeuble-là, hein, au niveau alors de Sabado. Et le bilan, on le connaît. C'est 3 morts et 4 blessés qui sont actuellement en soins dans les hôpitaux, de la capitale, bien sûr. Alors, Jean-Baptiste, quand vous avez appris cette information, comment vous l'avez accueillie?
C'est avec beaucoup d'émotion, mais ce que je peux dire tout de go, c'est que on dit souvent Dieu n'est pas injuste, parce que ce qui est arrivé paraît que le propriétaire aussi fait partie des victimes, malheureusement. Et à plusieurs reprises, il y a, selon les informations que nous avons eues, la mairie l'avait interpellé. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont interpellé sur le bâtiment qu'il était en train de construire, le danger que cela constituait pour lui-même d'abord et pour les riverains de sa bâtisse. Mais il a fait fi et il a continué jusqu'à ce que ça n'arrive au niveau du 5e étage. Et aujourd'hui, il paraît qu'il est revenu et c'est la même nuit de son retour où il a séjourné dans le bâtiment que cela s'est effondré. C'est pour cela que moi je dis que peut-être il serait ailleurs et cela va s'écouler sur d'autres personnes. Mais lui-même, il est revenu et l'accident s'est produit. C'est pourquoi je dis que Dieu n'est pas injuste.
Ce qui est sûr, il y a mort d'homme.
Il y a mort d'homme. Mais c'est que s'il avait écouté les conseils de la mairie et des riverains, je crois que peut-être ce drame serait évité depuis. Parce que la bâtisse, il pouvait recommencer depuis, à zéro, pour pouvoir avoir de fondations solides. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, aujourd'hui, on déplore des morts d'homme. À qui la faute? À qui la faute? C'est que aujourd'hui, c'est comme si pour lui.
Mais quand vous dites à qui la faute, est-ce que au niveau de la mairie, en interdisant ou en suspendant même d'ailleurs les travaux, est-ce qu'on n'a pas des mécanismes pour arrêter, faire le suivi même d'ailleurs de cet arrêt ou de
ça? Oui, je veux en venir parce que bon, on a appris que la mairie avait quand même fait une injonction à ce que cela s'arrête. Mais est-ce que la mairie a vraiment accentué sa pression? Sinon, le bâtiment était là, on ne pouvait même pas, si la mairie était vraiment rigoureuse, peut-être le bâtiment n'allait pas faire un mois, la mairie pouvait ordonner sa démolition. Mais c'est comme si peut-être nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation pour dire que la mairie a poursuivi son injonction jusqu'au bout. On a appris quand même qu'il y a eu quand même interpellation du propriétaire de l'immeuble. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi pour que cela puisse être, le drame là puisse être évité? La mairie quand même doit quand même situer l'opinion. D'accord. Sinon, on ne peut pas, dans des pays où on veut vraiment la quiétude, ça ne peut pas arriver comme ça dans l'impunité. D'accord. La mairie aussi doit être interpellée.
D'accord. Alors, Isidore, avec ce drame, est-ce que ça ne repose pas la question du respect de l'autorité aussi de la citoyenneté?
Mais, quelle question tu me poses? Qui a le monopole de la violence?
C'est l'État.
Mais, si l'État ne le laisse pas, il n'a qu'à se justifier. Moi, j'ai suivi de bout en bout le développement et un certain technicien qui vient dire qu'ils ont fait des injonctions, ils ont suspendu, c'est ça le terme, hein? Travaux suspendus, arrêtés, c'est la cessation des travaux, c'est ça qu'on met. Pas suspension.
qu'ils ont suspendu les travaux. Le jour où ils étaient allés, c'est les ouvriers qui les ont chassés. Donc, les ouvriers sont plus forts que l'État. Tu es un technicien représentant la commune, une autorité locale. Tu y vas, mais il faut t'associer les forces de l'ordre et de sécurité. Elles sont à disposition. Nous dire aujourd'hui que ils se sont déplacés sur les lieux pour interdire ou faire suspendre les travaux, on les a chassés. Ça n'honore pas le pays. Ça n'honore pas le pays. Mais s'il y a une autorité qui se cache derrière, selon nos informations, nous n'irons pas au fond des sujets. Aujourd'hui, cette commune, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est passé dans la même commune. Il y a de cela 2 ou 3 ans. Un immeuble s'est effondré.
Mais c'est
à Madaromé.
Oui.
Mais c'est la même commune. Qu'est-ce qui a été fait? Moi, la première responsabilité, même si les responsabilités sont partagées entre le propriétaire, la cause relève, ou revient plutôt à la commune.
Et qui n'a pas su. Amanda Romy, c'est Golf 5, hein, je pense bien.
Oui, Amanda Romy.
Ah bon, d'accord. Bon, ça, je ne saurais le dire.
Tout
bon,
à fait.
Bon, bref, mais c'est à proximité.
Justement, c'est côte à côte.
C'est côte à côte. Donc, bref, la lutte responsable revient à la commune qui n'a pas su réguler ou réglementer les choses.
D'accord.
Et j'irai encore plus loin. En temps, qu'est-ce qui s'est passé entre la notification suspension? Suspension veut dire que derrière, il y a une négociation. Comprenez bien les termes.
Ça veut dire que ça peut reprendre à tout moment.
À tout moment. Ça peut reprendre à tout moment. Alors que tu as le technicien qui dit que quand tu as vu les fondations, comment les choses se lèvent, ça va s'écrouler. Et tu étais allé pour suspendre et non arrêter les travaux. Ce technicien-là devait être mis au ouf si c'était dans une république.
D'accord.
Normal.
Ok. Oui, Eric, c'est vrai que le journal Le Correcteur a titré sur le sujet le loup tribut du lacisme. Est-ce que déjà, à votre analyse, vous pensez qu'il y a eu défaillance quelque part?
Oui. Je voudrais juste prendre l'exemple du maire Abouka. On parlait d'Amanda Roumé tout à l'heure. C'est dans sa commune. Mais il y a un immeuble que monsieur était en train de construire dans sa commune, qui n'est pas très loin du siège de la mairie, je veux dire. Abouka a envoyé son équipe technique pour aller regarder. Quand ils sont allés, le premier constat est que le matériau utilisé pour construire cet immeuble-là ne peut pas permettre à l'immeuble de tenir. Il suffirait d'un vent un peu fort que l'immeuble allait s'écrouler. Il a fait arrêter les travaux et avec interdiction même à quiconque d'aller sur des lieux de chantier. Et ça s'est passé. Le monsieur, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est allé partout. Il dit non, que lui, il doit reprendre son chantier. Abouka dit, niet, il n'en est pas question. Et j'avoue que, quelques temps après, on a vu que l'immeuble a été
érigé.
Cassé.
Ah bon.
Et ce n'est pas la mairie qui l'a fait, mais je crois que c'est le propriétaire lui-même qui, finalement, après des mois et des mois de gestation, il gesticulait partout. Mais finalement, il a compris. Ce qui s'est passé à
Sabado,
d'abord, quel constat la mairie a fait avant de demander au monsieur d'arrêter.
Non, de suspendre.
De suspendre les travaux.
Les
travaux.
Le mot, le
poids. Est-ce que il y a une étude qui a été réellement faite là par rapport aux matériaux utilisés, par rapport, on était en train de nous parler de fondation, mais le monsieur peut utiliser n'importe quel matériau là-bas si
la texture du sol ne répond pas.
Est-ce que la zone où on est en train d'ériger ce bâtiment-là, est-ce que c'est une zone habitable ou non? Quelle étude a été faite? Si on vient juste dire suspendez les travaux, ça ne peut pas se comprendre. Il faut justifier cela. Même si à la fin, on est allé écrire en rouge sur le bâtiment, il fallait tout faire pour discuter avec le propriétaire ou son représentant. Parce que lui, il paraît qu'il n'était pas au pays.
Il est allé travailler.
Donc, forcément, c'est quelqu'un qui suivait les travaux. Et donc, il fallait prendre en tâche avec lui. Quelque chose qui allait se passer, c'est l'État, comme l'a dit Isidore, qui a la violence, qui a le monopole de la violence, comme on dit. Et donc, la mairie pouvait interdit à quiconque
d'accéder
à ce chantier-là une fois que le constat a été fait que cet immeuble-là ne pouvait pas tenir. Parce qu'on n'a pas commencé l'immeuble avec les 5 étages en même temps. On a commencé petitement. À quel moment on a su que l'immeuble-là ne pouvait pas tenir? Mais si on a laissé jusqu'à 5 étages, ça veut dire que c'est des mois et des mois qui sont passés. Il y a le temps aussi qui compte. Et donc, tout ça aujourd'hui, c'est la mairie qui devait bloquer le chantier là.
D'accord. C'est vrai que nous étions hier même avec un ingénieur et qui nous disait que le sol même sur lequel la bâtisse a été bâtie a été un sol problématique. Donc oui, Isidore.
Non, ça pose fondamentalement à cela que je voulais en venir et de la démission ou du laxisme du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Cette zone n'est pas une zone de tolérance. C'est une zone approuvée. En principe, dans les pays où l'urbanisation est passée, on vous dit que sur ce sol-là, vous ne pouvez avoir que R plus 1, R plus 2.
Pas plus.
Mais est-ce que ça existe au Togo? Non. Donc, c'est une défaillance aussi de l'État de pouvoir dire que dans telle zone, même si ce n'est pas une zone inondable, il ne faudrait pas construire à hauteur de terre parce que compte tenu de la texture du sol.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste?
Oui, je crois que je dois abonder dans le même sens que mon ami Isidore parce qu'aujourd'hui, dans notre capitale, chaque fois, nous créons à partir de chaque mois de mai, juin, juillet. Que
on va parler de la saison de pluie.
Bien sûr, des inondations dans notre capitale. Ça, ce refrain-là, chaque fois, on fredonne ça. Au-delà de ça, les constructions. Est-ce que le MEI dispose aujourd'hui d'un plan d'urbanisation? Il n'y a pas un plan. Ça n'existe pas.
Il y a un plan directeur.
Directeur, c'est différent du plan d'urbanisation.
Oui, je te comprends.
Vous voyez, ça fait que chacun, tout le monde construit comme bon lui semble. Et c'est ça, les conséquences. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui est arrivé dans le Golfe 7, une responsabilité incombe aussi à la mairie. Parce que dès qu'ils ont fait leur constat, il y a que le bâtiment constituait un danger permanent. Ce n'est pas un danger temporaire, mais c'est un danger permanent pour les riverains. Je crois qu'une décision forte devait être prise depuis par la mairie pour interdire l'accès. Et aujourd'hui, s'il y a ce document-là d'interdiction d'accès, et aujourd'hui, peut-être le propriétaire est passé outre avant que l'événement n'arrive, Je crois que la mairie pouvait se justifier, mais tel n'a pas été le cas malheureusement.
Non, je, juste pour compléter.
Oui, mais
rapidement. Il y a un immeuble hein, ici, hein, le NATO.
Mais on en parlait.
Mais écoutez,
c'est ça, oui.
Mais il y a le NATO.
Aussi
qu'est-ce que c'est un danger public.
C'est ça.
Qu'est-ce que l'État attend pour démolir cet immeuble?
D'accord. Ok, et chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole aussi à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne, à participer à ce débat avec nous. C'est le principe de l'émission, c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos partenaires.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous, tous nos esprits. C'est un seul numéro hein, qui fonctionne ce matin, 91 86 36 63 75, c'est-à-dire, je rappelle, hein, 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la Presse à l'heure de ce mardi 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va et chez vous?
Par la grâce, je salue tous les journalistes. Alors.
Oui, c'est Évangéliste Senghor.
Voilà. C'est l'année de tous les jours.
Tout à fait. Il semble que votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer un peu son volume. Oui, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y.
Bon, je voudrais m'intéresser un peu au problème de Yokoué avec l'écroulement de ce bâtiment. Vous voyez, c'est ce que quand même on peut le dire, mais la question est ceci, est-ce que le bâtiment attendait l'arrivée quand même du propriétaire à être attendu? C'est ça, vous savez, c'est un peu de seul que le gouvernement ne va pas au niveau de spécialisme, au panneau, ça se passe. Mais bon, ok, les gens vont pas ça comme ça. Mais tout cela, je voudrais vous poser la question de savoir, s'il vous plaît, monsieur le journaliste togolais, plus précisément, le grand frère, la cause de tous ces journalistes, je voudrais savoir où le pays, ça ne va pas. Est-ce que vous cherchez, bon, le rédacteur en chef, à rencontrer le chef, c'est-à-dire le père de la nation, je veux parler de faire l'FMB, pour l'interdire, où ça se passe dans les autres pays. Donc, vous voyez, s'il y a des choses qui se passent, mais notre papa, qui est le président, ne parle même pas. Mais selon vous, de tout ce qui est placé là-bas, vous voyez que c'est normal, parce que les gens sont découragés. Moi, je suis à la morgue en tant qu'un évangéliste. Mais ça veut dire que les gens meurent à la secondaire. Bon, le pays, ça ne va pas. Ce n'est pas seulement sur Ouattara ou un pays du haut, partout. Mais le président, là, au lieu de dire quelque chose à sa population, à ses enfants, quand il y a un découragement, au moins il y a un soulagement. Mais la question, c'est est-ce que vous, les journalistes togolais, vous arrivez à s'approcher du président de la République togolaise? Je m'arrête ici, que Dieu vous bénisse.
Ah, d'accord, et que Dieu vous bénisse aussi, Évangéliste Senghor, et merci pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, Papa Simiti.
Bonjour, mon directeur.
Comment vous allez?
Président, ça va, mon directeur.
D'accord, allez-y.
Ce qu'il y a pour ce bâtiment-là, nous en avons parlé déjà. Les gens savent que ce n'est pas normal. Pourquoi le laisser encore? Le maire Abouka, nous connaissons ce qu'il fait. Hein? Ça ne va pas. Lui, il détruit. Bon, maintenant, c'est pour les laboratoires. Ça, il faut que le gouvernement, le ministre Koukourou que nous connaissons, puis son calibre, qu'il fasse tout pour que les laboratoires viennent. Vous avez parlé de l'histoire de Céline, les précipités, tout ça là, nous avions, comme madame la série des anciens naturels, nous faisions les opérations analogie interne, tout ça là. Mais aujourd'hui, est-ce que nos élèves là, ils le font? Moi, je me demande, est-ce que certains professeurs maîtrisent cette expérience? C'est ça, que le ministre Koukourouko, parce que ce n'est pas une affaire du président de la République, que le ministre le fasse avec le ministre Nakaba, qu'il mette tout.
Merci beaucoup, Papa Siviti. Merci de nous avoir appelé. 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et réagir au club de la presse de ce mardi. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, comment vous allez au CENI?
Le messager de l'amour. Je me porte très bien comme un ange au ciel.
D'accord, allez-y.
Je voudrais rappeler le siège de l'Immaculée qui s'est penché. Ça fait plus de 2 ans que. Et les journalistes en parlent de ça. Il faut que l'État réagisse après, par rapport à ça. C'est très, très dangereux. Et ceux de Sabal d'eau qui s'est écoulé là, il faut que la justice soit faite. Et l'architecte, les maçons qui ont construit, il faut qu'on les mette en prison. Merci. Et bonne émission.
Merci Osini, le messager de l'amour, de nous avoir appelé et d'avoir intervenu aussi dans cette émission. 91 36 63 75, et c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Bonjour.
Bonjour Madame Essi.
Bon, je vais parler des laboratoires pour les élèves, pour les étudiants. Hein, moi, j'attends que les gens rentrent en ligne avant de me brancher, quoi. Bon, laboratoire, je vous dis, je vous le redis, tant qu'il n'y aura pas d'alternance, on n'aura rien dans ce pays. On sera figé comme ça. Il faut que ça alterne. Les gens doivent le comprendre. On ne peut pas bloquer une république ainsi, et puis nous tous, on doit périr dedans. Non. Pour l'histoire de la maison qui s'est écroulée, ça va dans l'alternance aussi. Quand, si on alternait là, on achètera la tonne de ciment à 25, 30 000 maximum. Maximum. Parce que c'est nous qui produisons ces trucs-là. 25, 30 000, ça suffira largement pour qu'on achète la tonne. Personne ne pensera voler quoi que ce soit. Hein? Si tu dois utiliser 10 paquets quelque part, tu utilises un paquet, c'est obligé que ça se coule. Si les biens du pays sont partagés équitablement, tout le monde travaille, machin, il n'y aurait pas tous ces trucs-là. Tout ça, là, il faut vous verser vers le gouvernement. Et puis, pourquoi le président nous refuse l'alternance? Je vous ai dit d'aller lui demander ou de l'inviter pour venir nous parler, ou ne nous a jamais parlé.
D'accord.
Il ne nous a jamais parlé. Et lui demander pourquoi il ne refuse pas. C'est pas normal. Même ces dieux-là, il y a alternance. Tu mets bébé, et jeune, adulte, vieux, tu meurs. Quelqu'un d'autre naît. Mais c'est pas possible. À Vatican, ça alterne. Voilà. Je ne sais pas de quoi je vais parler encore. Je vais laisser la ligne.
Merci beaucoup. J'ai dit même il y a alternance. Et merci, Madame Essi, pour votre intervention. Dernier auditeur en ligne. Allô?
Oui, papa, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, je vous le dis.
D'accord. Allez-y.
Salut, Madame Essi. Tout le reste sur le plateau là-bas.
D'accord.
Et je ne sais pas si vous avez parlé de la bichère. Vous devez en parler. Voilà. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, le gaz du panneau de 12 kilos est venu à 4 millions au Niger.
Mais Basile,
oui.
Tu nous as suivis?
Oui, oui, vous avez parlé du bâtiment qui s'est écroulé.
Oui, mais voilà, on n'a pas touché la vie chère.
Ah, on n'en a pas besoin, ça.
Je n'ai pas dit ça.
D'accord. Je vous le conseille. Mais franchement, la vie chère au Togo, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'allais faire un développement très important.
D'accord.
Comme vous n'en avez pas parlé.
D'accord, merci beaucoup.
Okay.
Merci Basile. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Voilà, nous recevons ce dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
C'est
l'évangéliste est là qui nous a toujours.
Oui, mais
vous savez, mes frères, ce sont des hommes. Je le dis, je le réitère que toute mission, même vous les journalistes, c'est un ministère pour vous aussi. Le président, c'est le président d'un pays, c'est un ministère. C'est Dieu qui nous a assigné. Il n'y a pas une autorité qui ne vient pas de Dieu. Mais il y a un compte à rendre à Dieu. Hein. Il faut que les conseillers de mon grand frère qu'on n'assigne pas sa pension. Ceux qui sont là, ils voient la réalité. À cause de leur peine, ils ne veulent pas. Il y a d'autres mains, je vous assure, monsieur le journaliste, il veut que ça demeure comme ça et il veut profiter. Mais il faut qu'il sache que one day, un jour, il rendra compte à Dieu. Je vous remercie beaucoup.
Oui, mais merci à vous pour votre intervention. Et je pense que vous êtes le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce mardi. Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité. Votre réaction ?
Oui, je pense que nos compatriotes sont vraiment touchés par... cette situation d'immeuble qui s'est effondrée avec des pertes en vies humaines. Et ça veut dire que nous tous, nous prenons conscience de la chose. Désormais, il va falloir que nous essayions aussi de respecter la loi de la République, celle d'aller vers les mairies pour faire les permis de construire avant de démarrer tout chantier pour que les sols soient étudiés correctement avant de poser une bâtisse là-dessus. Cela nous éviterait beaucoup de problèmes. De l'autre côté, la situation de l'éducation dans notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, quand on veut une éducation d'excellence, il faut forcément mettre les moyens. Il faut aider les établissements à avoir... ce qu'il faut. Nous parlions tantôt de laboratoire. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a un effort qui se fait dans les établissements où on va créer des salles informatiques. Et il y a tout récemment un bâtiment qui a été réceptionné par les deux ministres de l'Éducation, Kokoroko et Tiakpé. Et donc, là, on a vu une salle informatique dédiée quand même aux élèves. C'est une bonne chose, mais à côté, il faut forcément un laboratoire où après les cours, les enfants puissent aller toucher du doigt ce qu'on leur enseigne.
D'accord. Isidore Collard ?
Non, je ne jurerai pas assez. Et si on veut l'excellence, il faut promouvoir aussi l'excellence... au niveau même des établissements publics. Moi, j'ai visité certains centres ou certains lycées. J'avoue que je ne reconnais plus ce que nous avons vécu à l'époque où on criait que bon, ce n'était pas l'excellence. Donc vivement qu'aujourd'hui, on puisse doter les lycées, pourquoi pas les CEG, hein, du matériel didactique, y compris les laboratoires d'expérience. Quand on passe au CEPAS de la chimie, moi, quand on était au lycée de Tourcoing, on faisait aussi des expériences de poulies et le levier. Ces choses-là, c'est resté ancré dans nos mémoires. C'est important, ce n'est pas seulement... On ne prêche pas seulement pour l'enseignement public, mais aussi l'enseignement privé et aussi surtout l'enseignement technique. Vous allez aussi aujourd'hui au lycée les techniques, mais c'est du désert. Il n'y a rien. Ce ne sont que de la théorie. Ce sont que de la théorie. C'est pas les TI, les branches TI, ces choses-là n'existent plus. Chaudronnerie. Ça
n'existe plus.
Ça existe seulement sur le papier.
Oui.
Voilà. Autant de défis à relever par Issa Tchakwe et par nos amis Issa Tchakwe, le ministre et Kokoroko, pour qu'on puisse doter les établissements publics d'une matériel didactique.
D'accord. Oui, mais Jean-Baptiste.
Oui. Ah bah, tu m'as coupé.
Oui, mais justement, je dois te couper parce que notre temps avance déjà.
Okay, oui, je crois que, bon, comme le confrère l'a dit, on doit passer, surtout en termes d'enseignement, on doit passer beaucoup plus de la théorie vers la pratique parce que beaucoup d'établissements manquent de matériel, que ce soit au niveau des séries techniques industrielles, autres là, et surtout les scientifiques. Il y a beaucoup de professeurs de mathématiques et de sciences physiques, des scientifiques qui manquent dans beaucoup d'écoles. Il y a des écoles où on commence un mois, deux mois, sans professeur de mathématiques.
D'accord. Okay.
Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien.
Alors, okay. Au-delà de ça,
oui, rapidement,
il faut quand même penser vraiment à doter, au niveau supérieur, j'allais dire, notre pays, des moyens de recherche. Parce que quand on fait un tour d'horizon avec les classements de l'UNESCO, il y a beaucoup de pays comme les pays en Afrique australe, le Botswana, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui mettent beaucoup de moyens dans la recherche.
Okay, on n'a pas ça en tout. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde. Et merci Eric Parkoudjo-Johnson d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal L'Union pour la Patrie. Et merci Isidore Akolor d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes directeur de journal, directeur de publication, bien sûr, du journal Actu Express. Merci, cher confrère, d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés, vous qui nous avez suivis. Merci à vous. Thomas était d'Atelier à assurer la mise en onde de cette émission. Jérôme Dacoutia a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Oui, je reviendrai à Lomé la souriante.